With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oh yeah, comme c'est parfait. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne nuit, vous êtes dans Laisse-moi kiffer. Et je suis en compagnie de Kalindi et Cédric comme toujours, mais ce soir nous avons un invité spécial.
Les rêves de Mimi.
Voilà, vous l'avez deviné, Fabrice Florent est dans les locaux avec nous pour ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, car Mimi a ses règles par chaos et du coup bah, elle a dû rentrer chez elle car elle était décédée.
Presque. J'ai peur que Fab nous pique la vedette.
C'est moi qui lui ai administrer ses règles afin de pouvoir lui piquer la place.
Vraiment, parce ça m'étonne que pas.
Je tiens à le dire.
Laisse-moi kiffer, c'est mon podcast préféré.
Ah,
je suis trop heureux. C'est mon seul avantage,
ah ouais,
parce qu'il n'y en a pas beaucoup, d'être patron de Mademoiselle, c'est de pouvoir écouter ce truc en avant-première. Dès que vous l'avez enregistré, en général, Louise, elle m'envoie le fichier. Et après, je ris tout seul comme un couillon.
C'est ton podcast préféré,
mais vraiment,
Fab.
J'aime tellement ce podcast. J'aime plus ce
ouf.
Podcast que mon propre podcast.
Allez, carrément. J'ai ton propre podcast, faisons de l'autopromo. Le podcast de Fab s'appelle Histoire de Daron. Il parle d'histoire de Daron, comme
oui
son nom l'indique. Yes.
Parce que voilà.
Parce que quoi?
C'est bien trouvé comme
parce
nom,
voilà,
n'empêche.
Ah,
parce
c'est bien,
que j'avoue, si ça avait parlé, je sais pas, du football gaélique, mais que ça s'était appelé
ou de crabe
de Daron,
ça aurait été dommage.
Ça aurait été bizarre.
Mais cela dit, je tiens à le dire, il y a un épisode avec Cédric.
Oui,
donc,
si vous voulez écouter Cédric.
Putain, j'ai toujours pas écouté Cédric.
Il était
Cédric,
encore jeune et tellement innocent.
Ouais, vous pouvez entendre tout l'inverse de ce que je pense désormais de mon enfant. Parce que j'avais enregistré ce podcast quand mon enfant, la chair de ma chair, avait 6 jours. Et donc maintenant, il a, je crois d'ailleurs qu'il a 8 mois et 6 jours aujourd'hui.
Oh, oh, anniversaire.
Ce qui a changé beaucoup de ma perception de, oui, la vie. De ce petit être.
J'aimerais bien faire une mise à jour un an plus tard, donc quand il aura un an et six jours, afin qu'on puisse voir l'évolution de Cédric sur.
Ça serait trop bien.
À propos de son enfant. Est-ce qu'il va dire la vérité, toute la vérité ? Dans ce podcast, vous le saurez dans un an.
Dans un an.
Enfin, donc moins maintenant.
Mais vous n'avez pas calculé, c'est dans 4 mois.
Oui, c'est ça, c'est dans 4 mois.
Oh là là !
En attendant, vous pouvez aller.
On n'a pas tous fait bac-caisse, hein.
Je sentais que ça allait être la merde avec deux mâles autour de cette table.
Sans doute le premier truc paritaire de toute l'histoire de Mademoiselle.
On peut laisser parler Louise ?
Merci.
Parce qu'elle a vraiment du mal à s'exprimer.
Vraiment, c'est
ouais,
compliqué.
Alors
là,
laissez-la un peu parler.
Donc tais-toi.
Pire personne.
Car vraiment, je fais la promo de vos deux personnes, oui, et vous me cassez les couilles. Que je n'ai pas, car j'ai des ovaires et mes règles. Donc arrêtez !
On te casse les menstrues ?
Vous me cassez les pinceaux, exactement. Vous pouvez donc, en attendant ce prochain épisode futur de un an après, aller écouter le premier épisode de Cédric le Daron dans Histoire de Daron, le podcast de Fab, que je linkerai dans les show notes.
Mais tu es tellement un amour.
Voilà.
Merci, loulou.
Sachez
merci,
que
loulou.
Vous savez que c'est déjà l'épisode 7 de Laisse-moi kiffer.
Putain, déjà.
Le temps passe.
Ouais.
Le temps passe. Et passe et passe.
Et beaucoup de choses ont changé.
C'est notre anniversaire.
Qui aurait pu imaginer que le temps serait
si. Je fais des blagues de qualité,
cool,
vous les remarquez même pas.
Non, si, elle était très très bonne.
Notre anniversaire.
Ouais, absolument.
J'ai juste à dire qu'aujourd'hui, Cédric, c'était je fais
match
en sorte de rebondir sur l'intégralité de tes vannes. Il a fait dans le dernier épisode deux références à Dragon Ball, des références sonores que vous n'avez pas captées du tout. Et moi,
non,
je les ai entendues.
Parce qu'on est jeunes.
Ah oui, voilà.
Oui, c'est vrai que c'est. En plus, c'était vraiment le premier Dragon Ball.
J'ai fait ah, il a fait nanana. Et vraiment, vous êtes là, bas les couilles.
Parce qu'on parlait du magasin de Banmi qui s'appelle donc Bulma. Bulma étant le personnage féminin principal de Dragon Ball.
Yes,
allez. Je n'ai aucune connaissance de Dragon Ball.
Et vous en avez rien à foutre, je le vois sur vos visages.
Avant de commencer ce podcast, je voudrais faire un espèce de best of des.
Qui a laissé son téléphone allumé?
C'est moi.
On va le tuer.
L'air menaçant.
Oups. Avant de commencer ce podcast, je voudrais faire un espèce de best of des coms parce que vous êtes plein de gens à nous envoyer des messages et que j'en ai sélectionné quelques-uns en
très
réaction
belle idée
au putain, dernier épisode.
C'était mon mini kiff.
De quoi?
De faire un best of des coms.
Putain, il a eu l'idée encore 2 secondes avant.
C'est oui. Tu viens de me cramer.
Putain. Cédric, c'est toujours la personne qui a les mêmes mini-kifs que les autres.
En fait, c'est ça qui est trop bien dans ce podcast. Mais du coup,
alors on peut peut-être faire
coup,
ça.
Oui, non, je suis complètement ravi. Non, non,
mais
fais-le.
On peut commencer. Je fais mon best-of et après peut-être ça sera le kiff de Cédric aussi.
On
n'aura
pas les
Allez,
mêmes
on
commentaires.
Fait ça.
Ça serait cool.
On n'aura peut-être pas les mêmes commentaires. Moi, j'ai sélectionné celui de Lulu qui nous a envoyé un message en nous demandant si on avait un nom d'équipe comme les Fab Five de Queer Eye. Et je pose la question aux gens qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous trouver un nom d'équipe sans le mot crabe dedans, merci.
Là, on est sur un Fab Four.
Moi, j'irais les Fantastic Four. Parce que les
non,
gens
je pense
pas.
Qu'il faut qu'on brainstorm un peu, quoi.
Ouais, n'hésitez pas à nous aider à brainstormer parce que apparemment, premier abord, on n'est pas hyper bon.
Quadricolore.
Quadricolore. Les quatre couleurs primaires, Bruno Vandelli. Si vous n'avez pas cette référence, vous êtes trop jeune.
Vous êtes quatre, ou tu es trop vieille.
Quatre quarts.
Ah oui, je suis très vieille.
Quatre
oui.
quarts.
Pourrait s'appeler les Brainstorm. C'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Pardon, je m'excuse pour cette vanne, s'il vous plaît. Arrête. Enlevez-moi le micro.
On pourrait s'appeler les Kikifs.
Ça c'est fera nul. Plaisir à Mimi. On pourrait choisir ça.
Un autre commentaire, c'est celui de Sophia qui dit... Enfin, elle a envoyé un message un peu plus long que ça, mais j'ai réduit. Comment s'appelle un banh mi avec un œuf au plat dedans?
Ah, c'est donc un quiz.
C'est donc un quiz.
C'est un quiz ou c'est une blague?
Un banh mi madame, non. Comme les croque-monsieur et les croque-madame. Pas du tout.
Un
banh madame.
Un banh moi.
Banh bouffe-moi la bite.
Kalindi, elle vient de dire un truc, mais...
Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai dit banh bouffe-moi la bite, mais je ne sais pas pour quelle raison.
C'était juste banh mi au plat.
Ah
et
bon
c'est apparemment le petit-déj préféré des Vietnamiens. Elle est au Vietnam et elle disait que c'était le petit-déj préféré.
Ah ouais, écoute, je vais au Vietnam dans un mois, pourrais me confirmer ça.
Si, au plat, mais O-P-L-A.
C'est ouf.
Sans déconner.
C'est-à-dire que pour eux, c'est la même chose que pour nous. Un œuf au plat, c'est au plat,
c'est
mais
au
pas
plat.
Avec la même écriture. C'est ouais. ouf ou pas? Alors j'espère que cette auditrice ne ment pas, car je vais au Vietnam dans un mois et je pourrais confirmer ça.
Ah, c'est clair. Okay.
Je ferai des photos de moi avec un banh mi au plat.
Attends, mais du coup, elle est au Vietnam?
Oui, apparemment.
Hi Vietnam.
Hi Vietnam. How are you Vietnam?
Est-ce qu'elle est bretonne?
Non, elle a précisé, je ne suis pas bretonne. Ah non, attends, c'est pas elle, c'est une autre qui est... C'est Claire qui précise ça. C'est Claire et So What sur le forum de Mademoiselle qui nous écoute en Australie. Et
oh,
donc, wow. Claire...
Disait oh là là, pire accent.
Claire écrivait un message en disant qu'elle nous écoutait en Australie, etc. Mais que malheureusement, elle n'est pas bretonne.
Ils sont
et
normands.
On te pardonne, voilà, on te pardonne, ce n'est pas grave. Et qu'elle risquait pas de se faire bouffer par les requins parce qu'on se c'est l'hiver et que l'océan est gelé.
Oui.
Enfin, pas gelé,
ah,
mais
c'est une bonne nouvelle.
Je pense pas que... Ouais.
Voilà.
Mais il y a toujours des cafards volants géants.
Tout à fait. À Maurice, on appelle ça des cancrelats.
Mmh. Ah, c'est encore plus mignon ouais. que le mot cafard qui est déjà genre dégueulasse.
Et en fait, si tu vas dans ma cuisine à l'île Maurice, tu penses qu'il y a un papier peint. En fait, ce n'est pas un papier peint, mais bien des cafards, des cancrelats écrasés partout, de part et d'autre des pièces.
C'est sympa comme motif de déco.
Qu'est-ce qu'on a pensé de cette expression « si tu vas dans ma cuisine à l'île Maurice ». Si tu vas dans ma villa, dans ma cuisine.
Alors, ma maison à l'île Maurice, je vais te décevoir, est un vrai taudis. Ah. Habité par les chiens errants et sur lesquels il y a des mangues qui tombent sur la tôle toute la journée.
Mais t'as quand même une cuisine dedans.
Mais j'ai une cuisine
ça,
dedans
c'est cool.
Et c'est déjà pas mal.
Voilà. C'est clair.
Décoré à base de cancrelats.
C'est ça.
Écrasé.
C'est te donner un peu l'ambiance de ma baraque, quoi.
C'est un délire.
Et voilà, c'était mes trois commentaires que j'avais sélectionnés, car je les trouvais cool et que je voulais faire un bisou aux auditrices qui nous ont écrit.
Bisous
ah oui,
à tout le monde. Hein. Merci de nous écouter.
Et aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont pas écrit ou qui nous ont écrit et qu'on n'en a pas parlé.
C'était pas nous écrire. On peut écrire où en fait.
On peut écrire, mais alors. Alors, déjà sur nos comptes perso, moi je reçois plein de messages sur Instagram personnellement, car c'est là où je suis le plus active. Kalindi aussi, je crois que sur Instagram
pas mal, ouais.
les gens t'écrivent.
Yes, beaucoup.
Si vous ne suivez pas encore cet excellent Cédric sur Instagram, c'est madfifi _. Aujourd'hui, il a posté une photo d'un tag où il y a écrit Zizi.
Zizi. Oui.
Alors, heureusement que ça n'était pas mon mini-kiff, car j'ai failli le choisir en mini-kiff et tu me l'aurais ruiné.
Mais arrêtez de choisir des mini-kifs internes à la rédac. Ah, moi, je voulais faire une update dans l'ancien épisode. Est-ce que vous vous souvenez de Laisse-moi kiffer numéro 5 où mon gros kiff, c'était
les petites étapes de la vie.
Oui,
on s'en souvient très bien.
Eh bien, sachez que depuis que j'ai reçu ma commode et que je l'ai montée, j'ai aussi reçu ma table pour mixer. Et donc, du coup, j'ai mes platines pour mixer chez moi, pour m'entraîner. Et depuis une semaine, je m'entraîne. Et probablement, mes voisins m'ont détesté d'ici peu, mais... Je suis très heureuse.
Oh, voilà. C'est trop
mais
bien.
Tu veux pas t'entraîner avec un casque?
Bah non, parce que je sélectionne la musique que je vais
au
mettre
casque.
Après au casque.
Ah, okay.
Donc du coup, je suis obligée d'avoir l'autre pour faire la transition.
Écoute,
voilà.
tu passes du bon son en même temps. Donc,
Oui, a priori, ouais.
Trop bien, j'ai trop hâte de venir chez
Bravo,
toi.
Bravo, Loulou.
Putain, c'est clair.
Merci.
C'est quand la teuf chez toi?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, je mixe à la grosse teuf le 22 mai.
Oui,
ouais.
Oui. Le 22 juin, chaton.
Ah, pardon, le 22 juin.
Ah oui, bah T'avais dit quoi, 22
mai? J'ai dit 22 mai. Et eux, ils font
Ouais,
on est le futur.
Merci Kalindi d'être mon cerveau.
Rigoureuse.
Ça sera donc dans deux jours. Par rapport à si
vous écoutez le 20 juin. Ça sera, le 22 juin à la Bellevilloise à Paris. Donc si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez faire des covoiturages pour venir et vous entraider entre mademoiselles. Il y a des topics sur le forum de MAD. Et sinon, eh bien écoutez, pour la prochaine qui sera certainement à la rentrée vers septembre.
Oui, on a même une date, non?
Je la connais pas.
7 septembre, je vous la donne en exclusivité, la 7 septembre.
Ouais. Ok, très bien.
Ok.
Ok.
Voilà, passons au mini-kiff du coup.
Ouais, Fab, à toi l'honneur, non?
Bah, putain, je
t'es l'invité spécial, bah wow. Attends.
Ouais, c'est clair.
Hey, tu voulais, maintenant tu le fais.
Ok, je suis trop content. Je suis trop content d'être dans ce podcast. Putain. Préparez-vous.
Alors,
mon mini-kiff date de ce matin, où je reçois à 7h du matin une notification sur mon téléphone portatif qui vient du téléphone de ma fille. Donc j'ai deux filles, j'ai une fille qui s'appelle Lina et une fille qui s'appelle Kim, et l'aînée qui s'appelle Lina a un iPhone sur lequel j'ai installé le contrôle parental, vous savez.
Parce qu'il ne faut pas déconner.
Donc elle est obligée de me demander l'autorisation à chaque fois qu'elle veut installer une nouvelle appli, et ça permet de contrôler un petit peu ce qu'elle a sur son téléphone, parce que l'air de rien, elle a quand même que 12 piges quoi.
Oh putain, c'est vrai.
Voilà.
Okay.
Ouais. Donc c'est cool qu'elle ait un téléphone et qu'elle ait un smartphone, donc elle a un iPhone, c'est cool et tout. Et là je reçois ce matin une notif pour une demande d'installer Clou. Alors qu'est-ce que c'est, Loulou, Clou?
Alors Clou, c'est une application pour suivre ton cycle menstruel.
Voilà. Et donc je reçois ça et je fais, tiens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, n'est-ce pas? Parce que bien sûr ma fille n'était pas réglée. Et là,
et
je lui dis, tiens, tu veux installer, je lui envoie un SMS, tu veux installer Clou? Je lui fais, mais alors, qu'est-ce qui se passe, t'as tes règles? Et là, à ce moment-là, en même temps, elle m'envoie, j'ai mes règles, avec un smiley mort de rire. je lui fais, ah bah cool, comment t'as connu Clou et tout? Alors, je sais plus
non, comment t'as connu?
Comment t'as connu? Et alors, elle me dit, comment t'as connu? Alors, j'ai compris parce que j'avais mon protège-slip tout marron. Alors, et encore smiley mort de rire, vraiment. Donc, on est sur du smiley mort de rire, quoi qu'il arrive. Je lui dis, non, je suis pas en train de te dire comment t'as su que t'avais tes règles. Parce que ça, a priori, je le sais. Mais comment t'as connu Clou? Elle me dit, par mes amis et par YouTube et tout. Je fais, ah ben, donc ça veut dire que déjà, t'as 12 piges. C'est fou parce que les meufs, elles vont démarrer leur cycle avec déjà Clou dans la main. Et donc, déjà de base, le truc de « je sais ce que ça veut dire, le syndrome prémenstruel, ouais. » Et c'est normal qu'en fait, j'ai envie de pleurer et d'avoir envie de crever.
Ouais, parce
comme,
qu'en fait,
comme
je pense que vous pouvez expliquer un tout petit peu plus. Clou, c'est une app où tous les jours, tu rentres oui. ce qui t'arrive. Alors, au quotidien, ça peut être genre « j'ai de l'acné » ou « je me sens pas bien » ou « je suis fatiguée ». C'est vraiment genre hyper détaillé, tu peux dire le nombre d'heures que t'as dormi, enfin bref, c'est très complet. Et en fait, au fur et à mesure des cycles, Clou analyse ce qui se passe. Et donc en général, du coup, pour Lina, ça va être hyper pratique, parce que moi personnellement, je prends la pilule, donc globalement, je sais à peu près où j'en suis dans mon cycle. Mais quand tu prends pas la pilule, ou t'as pas de contraceptif qui te dit à peu près à quand t'auras tes règles, c'est hyper compliqué à suivre. Et des fois, t'es dans une humeur de merde, et tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est juste que c'est ton syndrome prémenstruel et que t'as envie de déboîter à peu près l'intégralité de la Terre.
C'est ça, à peu près.
Et ce qui est ouf, c'est que juste après ça, je lui ai dit, mais est-ce que t'avais lu sur Mademoiselle? Parce que Marion avait fait un article, je pense, en 2015, de
moi,
Clou, vraiment au tout début où c'est sorti.
Putain, c'est si vieux que ça.
Bah ouais, en tout
cas.
Mais
j'en avais jamais entendu parler, moi.
Bah c'est vraiment...
C'est vraiment une appli trop bien.
Apparemment, okay, ça marche très très bien. Et elle me dit, je lui fais, mais t'avais pas vu sur Mademoiselle? Elle me fait, non. Smiley mort de rire, encore une fois. Ça... Donc je lui ai envoyé le mot-clé règle. Je lui ai dit, tiens, si tu veux savoir un peu comment ça marche.
Ah, trop bien.
Donc, je pense que je vais avoir droit dans quelques jours à comment ça marche la coupe menstruelle, parce qu'à mon avis, elle va être dans ce délire-là aussi.
Et est-ce que c'est vers toi qu'elle se dirige spontanément quand elle a ce genre de questions à poser ou pas?
Bah, je sais pas, parce que c'est vraiment la première fois. Donc,
Mais vous aviez pas eu avant le genre de truc de... où c'est peut-être toi qui lui as expliqué en quoi ça consistait exactement?
Non, alors ce week-end, j'ai expliqué à donc, la plus petite ce que c'était qu'un clitoris.
Ça, c'est génial.
Oui, c'est drôle, ça aussi.
À cause ou grâce, je sais pas. Non, en tout cas, grâce aux vidéos de Charlie. Parce que Charlie, dedans, dans ses vidéos, elle a un tuto où elle se déguise en clito. Je sais pas si t'as déjà vu la post-clito. Tu mettras un lien.
Je mettrai un lien.
Où elle est déguisée en clito. Et donc, elle discute avec Oscar qui fait la vulve. Et donc, moi, j'adore. Enfin, elles suivent Charlie et j'adore leur montrer Charlie. Elles avaient pas vu la dernière vidéo du soutif, donc on la regarde sur la télé. Et je lui dis, tiens, en fait, je sais pas si t'as vu la vidéo du tuto. Elle fait, ah, si, j'ai vu 5 fois et tout. Je fais, ah, tu l'as vu 5 fois, donc ça veut dire que tu sais ce que c'est qu'un clitoris. Alors, elle fait, non.
Trop chou. Elle
donc,
a quel âge ?
9 ans. Donc elle va avoir 10 ans là bientôt. Donc je lui dis bah, et va demander à ta mère, tu vas voir, ça va être marrant. Et donc elle va demander, elle fait ça s'appelle comment déjà clito comment. Et donc il y avait Lina qui était à côté, qui fait clitoris. Donc Lina sait ce que c'est que, qu'un clitoris. Et donc elle revient, elle fait berk. Je me dis pas berk, c'est trop cool. Est-ce que tu sais que c'est le seul organe qui est dédié au plaisir? En fait les garçons ils en ont pas, toi les filles vous avez le droit d'en avoir un, c'est trop cool. Elle disait ah ok d'accord, mais alors ça se trouve où? Lina qui lui fait c'est tout en haut de ta vulve. Et donc elle était en pyjama. Elle commence à faire ok, elle commence à se toucher comme ça style où est-ce que c'est et tout. Je lui fais normalement il y a un moment où tu vas atterrir dessus et ça devrait te faire un truc normalement. Et
elle... Oh mon dieu, j'imagine si j'avais eu cette conversation là avec mon père.
Bah pourquoi?
Non mais ah parce que mon père je pense que mon père ignore que j'ai moi-même un vagin, un clitoris, tout ça quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'il a essayé d'exclure de sa vie, c'est-à-dire la potentielle sexualité de sa fille.
Ouais.
Donc moi parler de ça avec mon père et toucher, tu vois, c'est un truc, c'est impensable dans ma vie quoi.
Alors que
c'est fou.
C'est très naturel en fait.
Mais je sais, mais je pense que t'as pas conscience du fait que ta situation avec ta fille est, je pense, assez exceptionnelle en fin de compte.
Alors j'ai moi, à titre personnel, très vite compris que, en tout cas en voyant comment les pères agissaient avec les filles d'une manière générale, très vite compris que c'était important de les sexualiser. Alors non pas d'en faire des... d'en faire, tu vas
des
devenir une chaudasse ma fille, machin, pas du tout. Mais en tout cas, juste de dire, en fait, un jour, mais toute petite, hein, vraiment dès la naissance, de me dire, ok, c'est cool, en fait, tu vas devenir une jeune femme qui aura une sexualité. Alors à l'époque, j'étais plutôt hétérocentré, donc je disais, et tu vas sucer des bites et ça sera super, tu vois, aujourd'hui, bon.
Elle
disais,
avait,
tu disais
elle
pas
avait 5
elle,
ans.
Hein. Je disais, mais non, même ah. pas. Mais vraiment toute petite, en fait, à la naissance, quasiment.
Ouais, non, mais c'est te le mettre toi-même dans la tête que t'as
voilà,
ah,
oui,
avoir
je
lui
ai pas dit, tu vas sucer des tubs. Je me suis juste dit, en fait, elle va sucer des tubs et c'est cool. Après, je l'ai élargi sur, si tu veux, tu lécheras des chattes aussi, ta vie sera belle. Mais je pense que ça m'a vraiment, moi, aidé à avoir ce truc de, en fait, tu vas avoir une sexualité et c'est pas grave et c'est cool. Et donc, typiquement, quand il y a ce genre de discussion ce week-end, c'est vraiment hyper détendu et il y a un moment donné où donc fatalement Lina Kim arrive sur son clito, elle fait ah ok c'est là et en fait elle commence à vraiment toucher dessus et je fais alors en revanche c'est chez toi dans ta chambre tranquille sans qu'il y ait personne quoi. Et donc il a fallu lui redire une heure plus tard parce qu'elle était en train d'y retourner, tu vois, de lui dire ok c'est, j'ai trouvé le jackpot mon pote. Et donc je lui ai redit non vraiment Kim, vraiment c'est important, commence
c'est
pas à te branler
partout. Ah mon dieu,
on va avoir des coups de fil de l'école et tout. Bah, tu es en train de se branler? Non pas du tout.
Ah ouais, putain, c'est fou.
Et en fait, j'étais vraiment super content de cette discussion. Tout ça grâce à Charlie et son costume clito de con.
Ouais, j'avoue.
Un autre monde s'ouvre à moi.
Mais c'est vrai.
Hein ?
Oui.
Bah ouais.
T'as l'air cool.
Mais moi, je suis choquée à mort.
Mais si un jour t'as des enfants, tu vas faire comment?
Mais moi, oui.
Ah oui.
Mais c'est juste que je me projette et j'imagine mon père en train d'imaginer qu'un jour, je pourrais sucer une bite. Ça n'est pas possible.
Mais je leur ai jamais dit, elles vont l'entendre par ce...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Ah, merde.
C'est...
Coucou Lina et Kim.
Coucou. Salut.
Bisous.
Alors,
salut.
On se branle bien?
Ah non, Cal,
mais ouais, pour moi, c'est complètement un autre monde, quoi, d'imaginer qu'un père a conscience de la sexualité de sa fille. Déjà, moi, j'ai pas conscience de la sexualité de mon daron. Je sais qu'il a dû niquer une fois pour m'avoir, mais c'est tout, tu vois. Et je l'imagine pas du tout glisser sur ma mère, comme ça, comme un phoque. Enfin, je n'imagine pas du tout. J'imagine tellement pas.
Mais cela dit, en parlant de sexualité et de daron, je sais plus pourquoi, tout à l'heure, avec Queen Camille, que vous avez entendu dans le deuxième ou troisième épisode de Laisse-moi kiffer, on parlait de ça et je disais que moi, mon père, il m'a filé une boîte de capotes en seconde. Et parce qu'en fait, je sais pas, j'invitais un pote à dormir à la maison, mais il y avait pas de... C'était juste un copain.
Ah ouais.
Et en fait, mon père a dû se dire, putain, on est en... Mais tu sais, genre, ouais, bah, elle est en seconde, les hormones, tout ça, ça doit la travailler, machin. Mais en fait, la manière dont il l'a fait était hyper maladroite. Moi, j'étais hyper mal à l'aise.
Ah non, mais...
Parce que vraiment, je pense qu'on a... Enfin... Maintenant que je suis un peu plus grande, on a pas mal parlé de sexualité et tout, mais avant, quand j'étais plus petite, c'était jamais trop arrivé. Et du coup, je sais pas, il est arrivé dans ma chambre, il m'a dit, tiens, je t'ai acheté ça, et il m'a filé une boîte de capotes, et j'étais là, ouais, super, protège-toi, hein. Ouais, ouais, ok, voilà, c'était la fin de la conversation, et j'étais là, bon, bah très bien, c'est... au moins j'ai une boîte de capotes, du coup.
Moi, j'ai même jamais eu ça de ma vie avec mon père, jamais on a aborder le thème de la sexualité. La capote, j'ai su ce que c'était un jour, je suis allée chez le médecin et j'ai dit à ma mère, c'est quoi un préservatif féminin? Et elle m'a dit, je te le dirai après, parce qu'on était chez le médecin et qu'il y avait plein de monde dans la salle d'attente. Et on est arrivé, et comme elle avait l'air gênée, je me suis dit, merde, c'est un truc sexuel, ouais. Chaud, ça veut dire qu'elle va vouloir m'en parler et j'ai pas envie. On est arrivé chez moi,
oui,
j'ai essayé de feinter un peu, tu vois, et elle a attendu. Cette connasse, que j'aille prendre mon bain pour venir s'asseoir à côté et me dire alors, un préservatif féminin.
T'étais coincée, tu pouvais pas t'échapper.
Et j'étais coincée comme une vieille merde. J'étais là, ah voilà. Voilà.
Alors, petite anecdote si vous le voulez. Mes parents, quand ils se sont mariés, donc ils se sont mariés dans les années, attendez que je dise pas de conneries, début des années 70, fin des années 60, mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, est allé voir mon père pour lui donner une boîte de capote et une bouteille de vaseline. Ah. En lui disant, voilà, c'est pour toi. Bah c'est attends, une histoire de famille.
C'est trop bien. Parce que fin des années 60, je suis pas sûre que
ouais, tout le monde donnait des capotes. Ah ouais, c'est clair.
Non, alors, ok, c'est trop bien dans ce sens-là. Après, si tu veux, il l'a pas donné à ma mère. Tu vois, il l'a donné à mon rep.
Oui, bien sûr.
C'est qui est.
Ouais, vois. Mais en fait, je veux dire, pour l'époque, c'est déjà quand même important, tu vois.
Mon père, il avait rien demandé. Je m'imagine vraiment voir le père de ma meuf se pointer et faire Fabrice, j'ai un truc pour toi. Voici, j'aurais
Fabien
envie
Laurent.
De me barrer en courant.
De la vaseline, comme ta femme est un peu sèche.
C'est ça. C'est un délire, la vaseline avec. J'en tiens du lubrifiant aussi. Car.
Attends, j'ai retrouvé du lubrifiant sur la table de chevet de ma mère, mais un lubrifiant à la ganja. Et j'étais là, what the fuck? Mais vraiment, j'étais là. Et... Salut Christmas. Ok.
Vous pouvez retrouver le street style de maman Kalindi sur Mademoiselle.
Oui,
hein,
tout à fait.
N'hésitez pas.
Voilà.
Street style mère-fille.
Street style mère-fille avec Kalindoche.
Attends, cela dit, j'avoue, moi je pense que j'ai eu une conversation avec ma mère, mais qui a dû durer 12 secondes, où elle a dû me dire. Tu n'oublies pas qu'il faut te protéger. Genre, mais vraiment en mode random au milieu d'un truc. Et j'avais genre 19 ans, donc tu déjà bonjour. Tu as du retard.
Je baisse depuis que j'ai 12 ans.
Cédric, par rapport à cette nouvelle copine, n'oublie pas qu'il faut se protéger. J'étais là, genre. Je crois que j'ai rien dit. Je suis parti comme ça, je me suis faxé contre le mur, genre.
Laissez-moi oublions, tranquille, je ne suis pas là.
Oublions que ce moment est arrivé. C'est très gênant pour tout le monde. Elle m'a rien donné, hein. Pas de capote, pas de lubrifiant, même pas un conseil. Genre.
Comme on a beaucoup parlé de ça, j'imagine que c'est un sujet, donc envoyez-nous des messages pour nous dire quelles sont les relations que... Non, c'est bizarre.
Oui,
de vos parents, votre propre sexualité,
voilà,
ou vice-versa.
Tout à fait.
Exactement.
À fait. Et quels conseils vous ont prodigués, si ils vous en ont prodigué.
Oui.
Bah, parfois, il y a des conseils farfelus.
De ouf.
Donc n'hésitez pas à participer à ce sondage à main levée.
Voilà, envoyez-le vraiment à une adresse qui existe et non pas à...
Et non pas à sondage parents relations sexuelles at mademoiselle.
Est-ce que ton père te voit sucer des tubs at mademoiselle?
Alors vraiment, ça va trop loin, mon cerveau ne peut pas supporter.
Ton mini-kiff, Kalindi.
Moi, mon mini-kiff, c'est l'humour. C'est l'humour des gens. Et les gens ont beaucoup d'humour. Ils font preuve de beaucoup d'imagination. Car, vous savez pas ce qui m'est arrivé, vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, avant-hier, je rentre chez moi quand je prends mon ascenseur. Et dans mon ascenseur, je vois un message. Je vous le lis tout de suite. Cher voisin, comme dans tout immeuble, nous sommes plusieurs foyers à partager la même adresse. Et oui. Il serait bon de prendre conscience... que dans le bâtiment, cela résonne beaucoup. Vos débats sexuels ne regardent que vous. Avec fenêtre ouverte en plus. LOL. À l'avenir,
lol.
Merci de faire attention. Avec un smiley chute.
Vos lol, débats. Vraiment. Vos débats sexuels.
LOL, vraiment,
c'est pas mal un débat
c'est
sexuel.
C'est du génie. Et attends, ça n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient là, genre, ouais, vénère et tout. Et du coup, ils sont venus écrire par-dessus. Il y en a qui ont écrit... alors ça, c'est la meilleure. Si vous commenciez à vous occuper de qui vous regarde. Et puis après... Il y a quelqu'un qui réagit à qui dit ce n'est pas une prison, et un autre qui dit il y a des enfants, et un autre qui dit encore dans Raymond Productions présente bienvenue chez les ploucs.
Mais,
et
y a
la plus drôle
truc, ouais.
C'est ma réponse préférée qui a été mise le lendemain, et c'est vous êtes loin d'être un exemple, votre femme simule mort de rire,
avec un emoji
qui pleure
emoji
de rire
MDR.
Le même emoji qu'il utilise Lina
ma fille,
à
oui,
tout va
tout à fait,
et vraiment
il y a quelqu'un qui écrit signé.
Il y a quelqu'un qui a écrit « Signé !» Genre, osez dire qui vous êtes, vous qui vous plaignez de ce bruit de débat sexuel. Et j'ai trouvé que tout était du génie. Déjà, le débat sexuel.
Ah non, mais tout, ouais, c'est parfait.
Et suite et fin de cet épisode extrêmement drôle, malheureusement, j'ai pas la photo. Je rentre chez moi le lendemain et il y avait quelqu'un qui avait punaisé notre réponse. Elle avait dessiné, en fait, un couple au lit et il y avait écrit, le type disait. Dis donc, est-ce qu'on se lancerait pas sur un débat pour parler des émojis ou non yes, dans les ascenseurs du bâtiment C, de l'adresse, machin. Et j'étais là, wow, ok, et tout, genre les gens se foutent trop de la gueule des autres. Et franchement, j'ai tellement ri.
Ah, c'est génial.
C'est très intéressant.
Suite à ça, je reçois un message via Instagram quand j'ai fait cette story d'une meuf qui m'écrit, ah, Kalindi, c'est trop drôle, c'est moi qui ai fait ce dessin. Et du coup, grâce à ça, non. Je connais une voisine.
Voisine
c'est trop bien.
Putain, c'est dur de connaître ses voisins à Paris, hein, faut pas
se dire. Je pense qu'en fait, c'est une meuf qui me connaît de Mademoiselle et qui a dû me suivre sur Instagram. Et en fait, elle savait pas que je vivais dans son immeuble. Wow. Et du coup, voilà.
Bah, j'espère qu'elle écoute. Laisse-moi kiffer.
Bah, écoute, j'espère.
Vous allez faire des apéros, j'espère.
Voilà, la boucle. Bah, écoute, ce serait une belle manière de débuter une amitié entre voisines.
Ça, c'est clair.
Voilà, c'est mon mini kiff parce que vraiment, rentrer chez moi le soir et voir des débats aussi bien sexuels que des débats d'ascenseur, je trouve ça du.
Est-ce que ce message vous était adressé à ton chéri, à toi?
Alors, vraiment, ça fait des années qu'on fait plus de bruit quand on baise.
Mais non, mais à mon avis, il parle vraiment de débats sexuels, c'est-à-dire
non.
De. Mais si.
Non, je pense pas.
Il parle vraiment de débats sexuels.
Étant donné le nombre de
ou Amazon, ils en ont parlé pendant des heures et des heures, la fenêtre ouverte. Bien sûr.
Est-ce que c'est pas des trucs de libido et de gens qui sont là, genre non, mais on baisse pas assez et blabla et qui se prennent la tête sur la sexualité?
Ce serait très drôle, mais je pense vraiment pas. Parce que
pour moi, c'est vraiment ça ken.
Je pense que ça ken vénère et vu le nombre de fautes d'orthographe du message, à mon avis, c'est un truc, c'est une faute.
Il y a des indices. Est-ce qu'on linkera dans le show notes?
Est-ce que je peux mettre la photo?
Oui, bien sûr. Allez-y, faites-vous plaisir et j'enverrai même le très beau dessin de la jeune fille pleine de talent qui d'ailleurs se trouve être artiste. D'après ce que j'ai compris, de
Et qui est une voisine et une mademoiselle également. Allez hop.
Allez hop. Et la boucle est bouclée.
C'est clair.
Voilà, merci aux gens de continuer à avoir de l'humour, c'est très drôle.
C'est
vous faites mon
cool.
Bonheur, merci.
Alors moi, mon mini kiff, quel est mon mini kiff?
Oui,
mon mini kiff, c'est de la bouffe.
Allez.
Comme d'habitude.
Miam 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 miam. Mangez.
Alors moi, mon mini kiff, c'est les kumpir. Qui sont des patates au four. C'est un plat turc, c'est un truc de street food en fait. Et c'est une patate cuite au four, c'est une grosse patate, hein. C'est vraiment une huge patate. Avec dedans des mezze, donc du houmous, du tzatziki, des olives, des haricots marinés, enfin genre c'est...
C'est une patate géante quoi.
C'est vraiment une énorme patate. C'est genre ça fait...
C'est une patate baguette.
Ça fait plus que ma main. Et ça n'est pas très podcastique car vous ne voyez pas ma main.
On mettra une photo dans les show notes.
Tout à fait. Voilà. J'ai pris des photos la dernière fois que j'en ai mangé avec Queen Camille dimanche dernier et c'était formidablement bon.
Sinon c'est interactif, ils peuvent regarder leurs propres mains les auditeurs pour se faire une idée.
Voilà. Mais si tu avais que responsable interaction entre l'auditeur et le podcasteur.
Mais si t'as des là, petites mains, vrai. Ça ne marche pas. Du coup,
il y a peut-être des plus petites patates.
Comptable.
Bon bref,
voilà, donc
délicieuse chose.
Délicieuse chose, si vous êtes dans les parages à Paris, je vous conseille d'aller rue de Ménilmontant. Il y a un restaurant qui s'appelle Les Mezzés du Chef, qui fait des spécialités turques et avec des options véganes. Et ça coûte 10 balles, la kumpir.
Ok.
Et
très peu cher.
On a mangé avec Camille la dernière fois. On avait pris une kumpir plus un pain avec du fromage, enfin, genre un truc vraiment huge. Et on a mangé le pain au fromage et après on n'avait plus faim pour la kumpir. On a vraiment mangé un tiers. Et heureusement, il faut emporter. Du coup, on a emporté et j'ai mangé le reste le lendemain soir et j'étais là tellement blessed. C'est vraiment deux repas pour 5 balles et c'est très très bon. Voilà.
Trop bien.
Donc, je vous conseille ça et si vous avez d'autres adresses.
On doit pouvoir
dans
trouver en province, je veux dire, en région,
oui,
n'est-ce pas, dans des restos turcs.
Exactement.
Hein.
Donc, si vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Écoute, moi, je cherche justement une adresse pour aller dîner ce soir avec mon amie Alice Piecoc. Et du coup.
Ah, bonjour Alice.
Je serai. Élise,
on l'adore,
meilleure personne. Écoute, du coup, je serais ravie d'aller tester ça. Peut-être vais-je faire ça de ma soirée.
Et ben voilà.
Oh là là.
Je te conseille vraiment. C'est vraiment trop bon et c'est pas très cher.
Tu vois, c'est interactif ce podcast. C'est beau.
C'est très interactif. C'est grâce à Cédric qui fait toujours la liaison entre le podcast.
C'est vraiment merveilleux. Mais c'est vraiment, vraiment, je tiens à le dire. C'est merveilleux.
C'est un délice.
J'y suis allée 3 fois et c'est. À chaque fois que j'y vais, je suis là, oh là là, faut que je vienne plus souvent. Et en même temps, j'ai pas envie de me gâcher le plaisir du coup. Ouais. Je passe un peu. Et
comme le sexe.
Exactement.
Vous avez beaucoup trop répondu en même temps, exactement. De façon triste.
Est-ce que ça veut dire qu'on est en couple depuis trop longtemps, Louise, toi et moi?
Peut-être. C'est-à-dire que vraiment, pas trop, point trop d'infos, un petit peu.
Un petit peu de temps en temps, quoi, pour faire plaisir.
Le soir, ou le vendredi
plaisir,
soir,
donc, comme ça.
Une semaine sur deux, une semaine sur trois,
après
une semaine sur quatre, les experts.
Pendant une la fois pub. Par an pour notre anniversaire.
Mon anniversaire, Viette. Excusez-moi, vraiment, je suis. Voilà, je suis pas, j'ai mes règles, je m'excuse
bien.
Comme
non,
je
non,
peux.
Non, non, non. Anniversaire vice de table.
Ouais. Alors, alors juste, je voulais rebondir sur ce que tu parles. Tu parles de la patate. Il y a quelques temps, à Paris, existait un restaurant qui s'appelait La Patata. La Patata, c'était donc un restaurant comme ça avec des espèces de patates transgéniques, genre énormissimes. Mmh. Et en fait, tu les fourrais à ce que tu voulais. T'avais la formule paysanne, la formule du sud-ouest avec les gésiers, le foie gras, blablabla, blablabla. Et j'y allais tout le temps. Ça m'évoque un souvenir. Je prends un accent suisse.
La Lausanne.
Et j'allais toujours au cinéma avec ma mère quand j'étais petite à Opéra, au Gaumont Opéra. Et en fait, en sortant de la séance, on allait manger cette patata réconfortante. Pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Du coup, savoir qu'il y a une autre patate qui plus est avec des mezzés, tu vois, ça titille ma Madeleine de Proust un peu, tu vois.
Patate cuite au four. Et c'est très important parce que le goût est totalement pas pareil.
Ah bah c'est pas comme une patate bouillie.
Et j'ai adoré comment Kalindi a placé l'air de rien qu'elle a grandi à Paris, ce qui est quand même un truc qui est pas tous les jours, tu vois. Enfin, c'est pas tout le monde.
Alors, il relève tous les trucs que tu dis.
Le
mec cuisine
insup.
À Maurice. La personne
il retrace ta vie.
D'habitude, j'ai Cédric, il est gentil. Tout Marceau, le monde parle, il s'en fout, il me regarde moi. Et là, j'ai Fabrice Florent.
Ouais, j'ai une bonne histoire de bouffe de rue en Turquie. Alors, parce que effectivement, les kumpirs, merveille. Mais en fait, ils ont aussi un truc qui se fait vachement... il me semble que c'est un peu plus pendant l'été. Ils font cuire des moules dans la rue. Donc, des moules farcis et tout ça. Donc, des énormes moules. Vraiment, c'est des trucs transgéniques.
Ils ont tout énorme.
Ouais, ils ont tout en très gros. J'avais,
j'en
ouais.
peux plus.
des moules partout, des grosses moules. Et donc, en sortant... je me souviens qu'en sortant de boîte à 6h ou 5h30 du mat avec beaucoup trop de thé à la camomille dans le sang.
Oui.
Il y avait donc un gars qui faisait cuire donc des rangées de moules dans la rue. Arrête, mais tu as 14 ans, Fabrice.
Il a 14 ans, c'est abusé.
C'est la façon. Tu
et
sais
donc,
très
il y
bien.
Avait toutes ces moules qui étaient là. J'allais dire chaude, mais je vais arrêter. Tu vois. Et donc, on s'est tous mis à manger des moules. Et on a tous fini très très mal car il faut pas manger
pas
des fruits de mer quand t'es tout bourré. Et effectivement, le gars était en train de vendre des moules à la sortie de la boîte de nuit. Elles étaient absolument pas fraîches.
Ah, le bâtard.
Ah ouais.
Parfaite.
On déconne pas avec les fruits de mer.
Non.
On ne déconne pas avec les fruits de mer.
Non, mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai acheté des moules dans la rue.
Ce qui, en fait. En soi, était déjà un avertissement suffisant.
C'est-à-dire, achète du maïs ou des marrons dans la rue. Ok, tu sais, j'en achète pas une putain de moule.
J'achète
un gars chelou. Et là, devant la sortie de la boîte à 6h du mat, genre, hey.
Est-ce que tu veux une petite palourde?
Ah, vous êtes bien prêts à bouffer n'importe
parce
quoi.
Que, en fait, la street food, souvent, c'est la bouffe la plus sûre parce qu'il y a un tel débit, il y a une telle demande, les gens achètent beaucoup. Ça brasse. Et du coup, ils sont obligés d'avoir un stock de produits frais. Ouais. Et le fait est que ça m'étonne vachement parce que moi en Inde, je me souviens qu'une fois j'étais hyper stressée parce que je me suis dit à force de bouffer dans la rue, je vais me choper une chiassasse mais alors de l'enfer. Résultat, je bouffe dans la rue, rien du tout. Un jour je vais dans un super hôtel en me disant bon allez aujourd'hui je vais péter la carte bleue, je me fais un resto avec mon pote Tim Tim, bref on arrive, on mange un super biryani. Résultat des courses, je suis mis à quatre pattes. Non mais plus que la chiasse de la bouche, la chiasse du cul, la chiasse des oreilles, tout. Je me retrouve à quatre pattes dans la salle de bain de l'Inde dans laquelle tu n'as jamais envie de te retrouver car tu peux choper le sida en mettant juste un doigt par terre. Vraiment, je te le confirme. Et j'ai passé 24 heures à me traîner dans la boue de ma salle de bain à dire je vais mourir. C'était de la bouffe de d'hôtel. Et pourquoi? Et j'ai appris ça le lendemain. Le lendemain, je pars, je prends un bus pour aller à une autre destination. Et là, je vois arriver devant l'hôtel où j'avais commandé le plat, un camion avec dans la remorque des sacs de riz et il y avait des singes dedans qui mangeaient comme ça avec leurs pattes et tout. Et en fait, j'avais dû choper une merde.
Tu t'en es bien sorti alors
singe.
Finalement
et
parce que tu aurais
bien sorti.
Pu mourir carrément.
Et j'aurais pu mourir comme
la
bien souvent dans ma vie.
Est-ce que t'as est-ce que donc t'as vécu ce moment magique où t'es en train de vomir et de faire caca en même temps?
Allô, évidemment, histoire de ma life.
C'est vraiment le meilleur moment où t'es.
Tu sais pas ce que tu dois faire.
Ça m'est arrivé une fois.
Bienvenue dans le podcast
c'est
Glamour.
C'est horrible. Tu sais ce moment où
mais
t'as.
Mais bien sûr, je sais.
T'as déjà vécu
mais
ça, mais les gens n'en parlent pas d'habitude.
Si vous voulez, j'ai une excellente anecdote.
Oh là là, le pire moment de ma life. Moi, je l'ai vécu juste une fois, ça va.
Mais en vrai, ce qui est vraiment horrible, c'est que tu ne sais pas ce que tu dois mettre sur les toilettes.
Exactement.
Est-ce ta bouche, est-ce que
c'est impossible de. Tu ne peux pas. Alors, désolé, tu peux pas vomir en retenant, en serrant les fesses, c'est impossible, ça ne marche pas. Ton corps physiquement fait non, ouais. Je ne veux pas. Pardon, pour tous les gens qui sont hémétophobes ou autres.
Ou à table.
Et pour tous les gens qui ne sont pas Cédric qui aimerait raconter son anecdote.
Tous les gens qui nous écoutaient à table.
Arrêtez du coup.
Bah non, ça y est, c'est fini. Continuez.
J'ai arrêté.
Ah putain. Non, arrêtez de nous écouter à table.
Ah.
Continuez de manger des grosses moules, surtout. C'est
important. Continuez de manger des grosses moules.
Est-ce que tu racontes alors ton mini-kiff en
Oui, alors en fait, c'était ça, mon mini-kiff, c'était vous.
À vous les auditeurs.
Non, vous les auditeurs, pas vous. Non, moi je suis dans l'interaction, le quatrième mur et tout. Tac, tac.
Il a vraiment dit ça en plus en disant c'était vous.
En fait, j'ai vécu plein de toutes ces petites choses d'amour. La dernière fois, en fait, Kalindi me disait ouais, est-ce que sur Instagram tu reçois pas plein de messages de gens qui te disent à quel point c'est trop bien, laisse-moi kiffer, ils t'envoient plein de shots d'amour. En vrai, j'en ai reçu une fois.
Mais faut
donc,
suivre.
Quand Kalindi me le disait, elle me disait, moi j'en reçois plein tous les jours, mais j'étais là, ouais, je comprends bien ce que tu veux
dire. Mais c'est normal, c'est parce que ton compte il est pas ouvert, Blaireau.
Non, je peux expliquer, c'est parce que la première fois qu'on a fait Laisse-moi kiffer, j'ai demandé à chacun son réseau social favori. Et sur les notes du podcast, le réseau social de Mimi, c'est sa page Facebook, parce qu'elle m'avait demandé de mettre sa page Facebook. Toi et moi, c'est
Instagram.
Et en fait, toi, c'était Twitter, tu m'avais dit. Donc j'ai mis Twitter. Ouais. Donc je mettrai à jour avec madfifi_ sur Instagram. Allez lui envoyer des messages, car regardez.
Mais oui, c'est la meilleure personne.
Non, mais du coup, dans ce cas-là, merci à toi, l'unique personne qui m'a trouvé pour m'envoyer un gentil message sur Instagram. Parce qu'en plus, ça veut dire que t'as galéré. T'as cherché.
Bravo,
chaton.
Et donc, tout ça pour. Bah voilà, déjà, donc merci à toi. C'est toi mon petit kiff. Je retrouverai ton pseudo un jour. Et en gros, grosso modo, ouais, c'est vraiment les messages des gens, les commentaires qu'il y a sur le forum. Enfin, c'est vraiment trop un bonheur de vous lire parce que c'est trop mignon vos messages.
Mais oui,
même si vous êtes breton, on vous aime quand même. C'est pas grave d'être breton. Moi, je suis à moitié breton. Alors, j'essaye tous les jours de lutter contre cette envie.
Tu nous l'avais caché,
Cédric.
Non,
je crois que je l'ai dit vraiment plusieurs fois littéralement dans l'espoir que.
Heureusement, je suis là pour t'écouter, Cédric.
C'est quoi ton nom de famille, Cédric? Ergoulette.
Ça fait plus turc que breton
mais en
pour
plus,
le coup.
J'avoue, Bégoc, ça
Cédric,
fait breton.
Cédric, Bégoc. Ah bah oui, en plein dedans.
Ah bon?
Ah bah oui, tout ce qui termine en
ça vient pas du Limousin.
Et en fait, il y en a un que j'aimais vraiment particulièrement beaucoup.
Ah.
C'est Cora. Attends, putain, mais tu peux pas avoir un pseudo normal. Coraco Brochialis. Révisez ces partiels et vous écoutez en même temps raconter des conneries. C'est juste priceless. Continuez comme ça, c'est fichtrement bon. Ce message est tellement cool parce que déjà, tu nous écoutes en révisant tes partiels. Je ne sais pas comment tu fais.
C'est clair.
Tu dois être particulièrement brillante. Et en fait, c'était trop mignon, c'était trop touchant. Et j'adore. Et ce message, il était trop mignon.
Mais c'est trop cool parce qu'en fait, depuis le message du breton en Islande, et ben en fait, il y a plein de gens sur le forum qui sont là. Mais en fait, moi, je vous écoute de là et je vous écoute de là et je vous écoute de là. Et en fait, vous êtes partout dans le monde. C'est un truc de ouf.
C'est ouf.
Et c'est trop bien parce que vraiment, j'aurais pas pensé qu'il y ait autant de gens à l'étranger.
Ah, mais c'est,
c'est clair.
Mais je le redis quand même. Qu'est-ce qu'il chante?
Un vieux Michael Jackson bien ringard.
Il nous fait une petite ambiance musicale puisqu'on vient à un moment
C'était pour le. C'était pas que Michael Jackson, il y avait tout.
Non, c'était
toute la
c'était
Mifa,
pour l'Éthiopie.
Et je voulais aussi dire quand même aux gens qui habitent dans des bleds paumés et ou dans des trucs pas stylés genre Saint-Nazaire que c'est pas grave et qu'on vous aime quand même si vous êtes
mais
pas.
Mais envoyez-nous vos bleds paumés. Dites-nous d'où vous nous écoutez. Et genre, franchement, on essaiera même de trouver des anecdotes sur vos bleds paumés.
Mais
de
oui, bled paumés.
Moi, je viens de Neuville-en-Ferrin dans le 59. Tu vas faire quoi à la frontière belge là? C'est chaud, mon pote.
Ah, ça a l'air très chaud.
On peut se moquer de toi. À Saint-Benoît-la-Forêt.
Oui.
Je ne sais même pas si tu es ça sur une carte.
Saint-Benoît.
C'est à côté de. C'est dans le 37. C'est à côté de Tours.
Je ne sais pas où est Tours.
C'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Moi, ça me réchauffe le cœur chaque jour quand je reçois des messages. Et continuez de nous les envoyer parce que vraiment, on ne s'en lasse pas. C'est hyper important même pour garder le moral. Et même quand on se dit qu'on a un coup de mou et qu'on est parfois fatigué avant de faire le podcast, ça remet vraiment du baume au cœur.
Il y a un vrai truc trop cool qui est en train de se passer, c'est que la plupart des gens qui aimaient auparavant se sont rendus compte, notamment avec tous les bad buzz qu'il y a pu y avoir, etc., que c'était cool de le dire et pas juste de kiffer et de pas dire. Et je trouve que notamment Marion a vraiment poussé ça dans, ouais, dans son TED et dans les interviews qu'elle a pu faire sur Mademoiselle.
Marion Séclin,
de venir dire, en fait, si, même ne restez pas dans la majorité silencieuse et dans les gens qui aiment et qui disent pas, surtout n'hésitez pas à venir dire. Et c'est vrai que c'est hyper cool vraiment de recevoir des messages qui font plaisir.
C'est la meilleure chose.
Ouais, un bon moment d'amour, super.
Et ben en tout cas, c'est la fin des mini-kifs et je pense que c'était des très beaux mini-kifs.
Ouais, yeah. Wow. C'était tous très inspirés, bravo plaisir. À nous.
Oui. Passons donc maintenant au gros kiff. C'était un peu effrayant, mais
on la secte.
Ah, t'aurais dû la prendre entière, je l'aurais pris en quintette, là on aurait été bon. Je ne sais pas si ce que je viens de dire a du sens, car je n'y connais rien en musique.
Prends-la entière.
Qui commence
Bah toi Fabrice, c'est ton jour, bah oui.
Ok, c'est cool.
T'es si alors... heureux.
Oui, vraiment, j'adore être trop dans ce podcast. J'adore écouter ce podcast, en vrai je suis trop content. Je pense pas que je vais m'écouter de cette série, complètement ridicule. Mais...
Est-ce que tu prends autant de plaisir à faire ce podcast que ce que tu pensais? Est-ce que ça te déçoit
oui,
pas?
Oui.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'adore vraiment vivre ce moment avec vous. Il y a vraiment énormément d'enthousiasme. En fait, je suis vraiment un auditeur. Je kiffe et j'écoute souvent votre podcast dans les transports. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un gros truc. Les transports ou le bureau, les gens qui disent qu'ils se marrent comme des baleines devant...
Oui, c'est un vrai truc, ouais.
En vous écoutant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis... hilar dans le métro tout seul comme un con et les gens autour de moi me regardent en disant pourquoi il est en train de rire tout seul, mais je ris tellement à chaudes larmes que c'est vraiment ça, c'est kiffant fou. Et le fait que d'être, je pense qu'il y a vraiment un truc génial avec le podcast audio, c'est que t'es tout seul dans ta bulle, c'est avec ça, les gens qui sont en train de te parler, et t'as un truc un peu, c'est mon kiff à moi de vivre ce moment là tout seul avec les gens qui sont en train de me faire marrer. Les autres ne comprennent pas tout autour, ils te regardent en disant,
c'est encore plus grisant,
en faisant la gueule. Et pour moi il y a un vrai truc cool, tu vois, de je suis en train de kiffer et peut-être même que les gens se marrent en me regardant, et pourquoi pas, je trouve que c'est cool.
Allez Fab, ton gros kiff.
Alors moi, mon gros kiff, c'est, alors ça va être une ref d'auto-promo, mais peu importe, c'est vraiment mon kiff du moment. J'ai interviewé ce mec qui s'appelle Jérôme Collin dans mon podcast d'Histoire de Daron. Avant ça, j'ai lu son deuxième bouquin qui s'appelle Le Champ de Bataille, où il parle de le narrateur, en fait, a une quarantaine, un peu triste, un peu déçu. Son seul havre de paix, c'est dans les chiottes, où en fait, il a planqué dans un coin une boîte où il a des souvenirs, où il a des souvenirs et des photos. Et en fait, c'est vraiment son seul moment. À côté de ça, en fait, il a un ado qui a 15 ans. Et donc, il utilise beaucoup la métaphore de la guerre et de la bataille. Ouais. Et en plus de ça, il a un couple qui se délite un petit peu, si tu veux. Il est vraiment dans un seum. J'ai ouvert ce bouquin, il était 20h. Je ne l'ai pas fermé jusqu'à 4h du mat. Je l'ai bouffé de A à Z.
Ah oui.
Je trouve vraiment qu'il a une patte, il a une façon de raconter. En tout cas, qu'il me parle beaucoup à moi. Et je pense que ça doit être sans doute un truc de Quadra. Alors même si je ne suis pas à ce point-là déprimé qu'il peut l'être. Mais en tout cas, il a vraiment une façon de raconter l'éducation de ses enfants, les difficultés qu'il peut avoir dans son couple. Et encore une fois, même si je ne me situe pas non plus, mais en tout cas, je ne me projette pas non plus trop, mais il a vraiment une façon très... hyper punchy, et en même temps il te saisit parfois, il te fait rire, il te saisit parfois au cœur pour te faire chialer. C'est fabuleux, quoi. Vraiment, ce bouquin, je l'ai
dévoré. Comment ça s'appelle, tu dis ?
Le Champ de Bataille.
Ok.
Et donc, j'ai découvert, parce que je prépare pas jamais très peu mes podcasts, mes interviews, qu'il avait écrit un premier livre qui s'appelle Éviter les péages. Petite référence à Cédric ? Non ? Alain Bachung ?
Référence à moi.
À Alain Bachung ?
Oui.
À Osée Joséphine ?
Ah ouais, putain.
Putain, okay. Je l'avais pas. Pourtant, on la connaît toute. Hein.
Ouais.
Lever les péages, rugir dans la vie.
Non, mais enfin bon.
Écouter les nuages. C'est un peu le Bob Dylan français, Alain Bachung. Ouais.
Voilà. Jamais souffrir.
Oh. Allez,
tu as coupé parce que le vrai truc c'était jamais souffrir. Et donc je suis en train donc de lire le premier bouquin que je dévore alors que j'ai mis plus de temps à dévorer parce que j'ai d'autres choses à foutre en ce moment. Mais
à chaque fois du mat.
à chaque fois que je l'ouvre, je prends un vrai plaisir où il joue un. Enfin, le narrateur est un taximan, donc toujours belge parce que le mec est belge à la base, donc ça se passe dans Bruxelles, où il est dans un. Le mec a pareil 40 ans, tu sens bien que c'est la préquelle de son bouquin de la suite, où il est un peu dans un seum de cet entre-deux-vie où tu sais pas encore vraiment si tu dois aller vivre une vie que t'as jamais eue et dont tu rêves depuis des années, et en même temps te raccrocher à la vie que t'as créée avec ta femme, tes enfants, etc., qui est un truc un peu plus plan-plan. Et tout le bouquin est parsemé de rencontres qu'il peut avoir dans le taxi, parce qu'il a vraiment des moments un peu de vérité avec des gens avec qui il parle pendant 10-15 minutes, après trop les bien. Gens s'en vont, quoi, tu vois, donc il y a des moments de vérité folle, et il a une plume fantastique, vraiment j'adore lire ce mec, et à la base il est présentateur d'une émission qui s'appelle Heptaxi, donc Taximan, Heptaxi, qu'il fait sur la RTBF depuis 15 ans maintenant, où il fait des longues discussions, c'est même pas des interviews, mais il conduit des stars dans un tacos à travers Bruxelles. Il les emmène dans des endroits et il discute avec eux, mais des discussions hyper profondes qui durent 30-40 minutes. Donc c'est très très rare d'avoir des discussions aussi longues à la télé d'une manière générale. Et le mec est vraiment super bon intervieweur. Enfin moi, j'ai bouffé l'intégralité de ces émissions. Alors je les ai pas toutes vues, en tout cas celles qui sont disponibles je les mange toutes. Il a notamment fait un épisode avec Stromae où il parle de, donc là très récemment, où il parle de Stromae après son burn-out et après son hospitalisation. Le mec est toujours hyper juste, enfin il est vraiment, c'est un mec en or, et j'ai donc je l'ai interviewé dans Histoire de Daron. J'ai adoré cette interview de A à Z. Donc voilà, j'ai tout de suite pensé à ce bouquin parce que je suis en train de le lire et c'est vraiment très très bien.
C'est trop bien, de ouf.
Mais en plus, c'est multimédia. Tu peux prendre le livre, tu peux commencer par la série Heptaxi, tu peux faire
exactement
pour entrer dans son univers.
Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le point de vue du daron sur l'éducation d'un adolescent. Parce qu'en fait, moi, je vois des discussions que j'ai eues avec mon père... quand j'étais ado ou encore maintenant, où des fois il me dit ah, c'est bon, t'es ma fille, et je suis là, vraiment je suis ta fille, mais j'ai grandi, donc maintenant je ne suis plus que ta fille, et j'ai un avis, et je suis pas d'accord avec toi sur certains trucs, et c'est toujours compliqué, je pense, d'avoir des discussions comme ça. Donc ça m'intéresse grave de voir ce point de vue à l'inverse du daron qui voit son enfant grandir, quoi.
Bah moi, il y a un truc qui m'a vachement touché, c'est que dans Histoire de Daron, il dit notamment aux ados, parce qu'il y a pas mal d'ados qui écoutent Histoire de Daron un peu à ma grande surprise, n'est-ce pas, mais qui justement veulent savoir comment ça se passe dans la tête, dans la tête des darons, et qui dit vraiment, n'oubliez pas que dans la tête de vos parents, ils ont toujours 14-15 ans, quoi. Ils ont le même âge que vous dans la tête, c'est juste, en vrai, ils ont les yeux un peu plus fatigués et ils ont des cheveux gris et ils sont plus vieux, mais ils ont les mêmes délires dans leur tête, c'est juste que la vie leur est un peu passée dessus. Donc n'oubliez pas ça. Je trouvais que c'était vraiment hyper bien comme message. C'est vraiment un truc qu'on entend assez peu. Il a aussi tout un discours sur l'école qui est, à titre personnel, fabuleux, sur à quel point l'école fait rentrer les mômes dans des moules. Ce bouquin est trop bien et je pense que si t'as 15, même en fait, en vrai, même si t'es vieux, tu peux lire ce bouquin, ça te fait rentrer dans ce qui se passe dans la tête de ton père, c'est vachement
c'est
bien,
trop
quoi.
Cool.
Ouais,
c'est
trop bien.
J'avoue que moi, c'est mon rêve de savoir ce qui se passe dans la tête de mon père. Donc,
mais tu l'as demandé ?
C'est drôle.
J'ai essayé maintes et maintes fois de demander à mon père ce qui se passe dans sa tête, mais ça n'est absolument pas possible. C'est quelque chose qui est fermé à double tour. Et pardon ?
C'est un taiseux ou...
C'est quelqu'un de très bavard, mais jamais pour les choses importantes. Ah. C'est quelqu'un de très bavard et qui passe sa vie à ressasser le passé et qui est plongé dans une déprime, à mon avis, qui est telle que c'est complètement impossible d'avoir une vraie conversation avec cette personne que j'aime très fort, mais qui demeure la personne qui a vécu chez moi, et je pense pas vraiment mon père, tu vois. Donc moi, c'est un truc... Le sujet de mon père, c'est un truc qui me passionne. C'est une personne qui me passionne tellement, tellement elle est infranchissable et impossible à découvrir, que j'ai toujours voulu écrire sur lui, tu vois. Ouais. Et lui qui n'a jamais lu, il a dû lire deux livres dans sa vie à tout casser. Mon rêve, c'est d'écrire un livre sur lui et de lui offrir et de l'obliger à le lire de A à Z pour pouvoir confronter nos versions et savoir si ce que je pense de lui, c'est vraiment la vraie personne qu'il est, en fait, tu vois.
C'est un super projet, ça.
Ouais.
C'est un super projet, mais je pense qu'il sera décédé avant que le projet voit aboutissent. Car c'est très dur, je trouve que moi, je me confronte à l'écriture personnelle très souvent parce que j'écris pour moi, en plus de pour Mademoiselle. Et je trouve que c'est un exercice qui est très périlleux parce qu'il te fait te confronter à ta propre médiocrité. Et du coup, c'est difficile de dépasser ce sentiment de médiocrité et de se dire que c'est pas grave et de continuer à écrire. Et du coup, moi, c'est la barrière que j'ai avec, avec l'écriture sur mon père. C'est que c'est du domaine de tellement de l'intime que c'est dur de franchir le cap de la confiance en soi et de se dire c'est pas grave, écoute, va jusqu'au bout et on verra même si c'est pas bien, c'est pas grave.
Là-dessus, il y a Élise Francis qui est rédac mode chez Mademoiselle. On a un groupe Facebook où on partage des trucs de développement perso en gros. Et la dernière fois, elle a envoyé un message avec un podcast de développement personnel qui s'appelle Change ma vie et elle nous dit tenez, écoutez celui-là et tout, mais globalement, ils sont tous pas mal. Et en fait, j'ai quasiment téléchargé tous les épisodes. Et j'en ai écouté quelques-uns, et il y a un épisode où elle dit, où elle explique en fait que donc tu n'es pas tes pensées, et que t'as toujours des pensées négatives, parce que ton cerveau, il est fait pour... pour réfléchir en fait dans les cases, et il est toujours en train de te dire ah non, ça c'est pas bien, ça il faut que je change ça, etc. Et elle propose un exercice que moi j'ai commencé à faire, parce que bon, ça fait deux jours que j'ai découvert ce podcast, donc ça fait deux jours que je le fais, mais elle appelle ça le flow. Mais en vrai, moi, je l'ai déjà fait en plus vénère. Je faisais les pages du matin où je me prenais une demi-heure où j'écrivais trois pages dans un carnet. Et donc, trois pages, t'as le temps de vider tout ce que t'as dans la tête. C'est long as fuck. Et là, elle le fait sur 5 minutes. Et donc, du coup, tu te mets un chrono et tu notes les trucs. Et là, tu vois, moi, c'est pas forcément des trucs négatifs que je note. Mais en effet, c'est les trucs qui passent dans ta tête. Et souvent, c'est les trucs que t'as à faire, les trucs que t'as oubliés, les trucs qu'il faut que tu fasses, ou les trucs que t'as pas bien fait. Ou... Et en fait, c'est que des petits trucs. Et je trouve que ça rebondit un peu sur ce que tu dis, sur ce que t'écris, et que tu trouves tout le temps que c'est négatif. Bah, en fait, peut-être juste les sortir de son cerveau une bonne fois, enfin, une fois de temps en temps, ça fait du bien.
Non, mais c'est une très bonne thérapie, hein.
Et voilà.
C'est une très bonne thérapie si tu veux, enfin de mon point de vue, si tu veux le garder juste pour toi, si tu veux, comme moi c'était mon idée de le faire, qu'il ait une vocation à être publié un jour, là ça devient un exercice qui est vraiment extrêmement douloureux, qui relève vraiment de la douleur parce que t'accouches de quelque chose dont tu veux qu'il ait une vraie, il ait une vraie vie par lui tout seul après, et en fait c'est très difficile si t'arrives pas à...
Ouais, puis il faut lâcher prise quoi.
Faut lâcher prise en plus.
Tu voudrais qu'il soit publié, pas juste le faire lire à ton père.
Ça c'est deux bouquins aussi. Le bouquin pour mon père, ce serait juste un livre pour lui. Ouais.
Ok, d'accord.
J'ai écrit un autre livre depuis des années, et celui-là, il a pour moi vocation à être publié, mais c'est très difficile de le faire arriver jusqu'à mon stade de satisfaction.
Est-ce que y a des gens qui t'aident?
Ah non, je suis toute seule et je veux pas d'aide.
T'as essayé d'envoyer un éditeur?
Non, parce qu'il est pas abouti et tout, mais...
Non, mais le truc, c'est que si tu l'envoies un éditeur, t'auras de l'aide.
Oui, j'aurais de l'aide de quelqu'un que je connais pas, je veux pas de l'aide de quelqu'un que je connais, c'est pas possible.
Okay.
Enfin bon, voilà. C'est la parenthèse écriture.
Fais-le, Kalindosh. Ouais. Do it.
Très beau kiff, Fab. Très beau gros kiff qui, moi, m'a donné vachement envie, en tout cas. Qui veut...
Bah, moi, oui, je peux. Allez. Oui, très bien. Alors, moi, mon gros kiff, c'est une chaîne YouTube, car je suis une grosse geek.
C'est celle de KZNestat.
Non, c'est pas celle de KZNestat. C'est celle d'une meuf qui s'appelle Daria Andronescu, qui est une nana qui vit à Düsseldorf en Allemagne, mais qui est russe à la base, et qui fait des vidéos en anglais. Donc ça fait beaucoup de choses d'un coup.
En même temps, s'il l'avait fait en russe, peut-être t'aurais pas compris.
Oui, ça aurait été compliqué. Okay. En gros, j'ai découvert cette nana grâce à Solange Te Parle, qui a fait une vidéo récemment de 10 chaînes YouTube qu'elle kiffe et qu'elle aime bien regarder. Donc c'était un peu genre de la promo de d'autres gens et c'était trop cool. Et donc cette meuf-là m'a intriguée. Elle parle de mode. Et je ne suis pas une personne qui s'inscrit et qui s'abonne aux chaînes de mode d'habitude, ni aux chaînes de lifestyle de manière générale, enfin très peu. Et en fait, elle est hyper intéressante parce qu'elle s'appelle donc Daria Andronescu, je vais y arriver. Et elle est personal shopper dans la vie. Donc, des gens la payent pour qu'elle fasse leur garde-robe.
Tellement le job de rêve.
Et en fait, elle a créé une espèce de méthode qui s'appelle Wonder Wardrobe, où elle donne des cours entre guillemets par correspondance, c'est-à-dire que elle a un truc, ça coûte 200 balles, je crois, de s'inscrire à son cours. Et bon, à côté, elle fait son taf de personal shopper. Et en fait, sur sa chaîne YouTube, elle prend le concept de capsule wardrobe. Wardrobe, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais.
Dressing, quoi.
Ouais,
wardrobe.
En gros, merci Fab.
C'est des trucs fancy, c'est bon. Et donc, le concept de capsule wardrobe, c'est d'avoir très peu de vêtements. Il se fout de ma gueule.
Wardrobe.
Je vais arrêter de dire
ça. Hi, wardrobe.
C'est d'avoir très peu de clothing.
Des clothes. Donc, c'est d'avoir très peu de fringues, mais qu'elles matchent toutes entre elles pour pouvoir les porter.
Les interchanger,
exactement.
Stylé.
Et donc, du coup, avec, je sais pas, 7 hauts, 5 bas, tu peux faire 40 outfits, quoi. Et cool. Donc, elle t'explique ça et elle t'explique comment ça fonctionne, comment tu peux commencer. Parce qu'en fait, quand t'as l'habitude d'acheter en fast fashion, car j'ai décidé d'utiliser que des mots anglais.
En mode rapide.
En mode rapide. Non, mais tu vois, genre, acheter chez H&M est compliqué. Et compagnie. Ouais.
Mais c'est aussi compliqué, parfois, d'acheter chez H&M.
Oh là là, pourquoi je fais des podcasts quand je parle, que je sais pas parler? C'est compliqué. et donc, ouais, acheter chez H&M, Zara, ça se renouvelle toutes les semaines, c'est des produits de merde, blablabla. Et donc, elle parle du principe que moins t'as de fringues, mieux c'est, parce que t'achètes de la meilleure qualité, etc. Donc, elle te fait des budgets, des machins, de combien tu dois garder de thunes pour te faire ta garde-robe pour une petite saison. Enfin, ouais, c'est sur 3 mois, elle fait des par saison, elle. Mais en gros, je pense que ça doit se faire par année, et juste t'as très peu de fringues. Et c'est ultra intéressant, et elle parle du rapport aux couleurs, des trucs, elle dit ça sert à rien d'avoir une garde-robe basique. En fait, vraiment, le rapport au style est hyper important. Trouve ton propre style et amuse-toi avec, et trouve les tons qui te vont bien, etc. Enfin bref, c'est trop intéressant, et j'ai vraiment, ça fait 4 jours que j'ai découvert cette chaîne YouTube, j'ai bouffé la moitié du truc, mais c'est genre, je ne m'arrête pas.
Comment te dire que je vais faire ça ce soir?
Et c'est vraiment ultra passionnant, et elle est trop mignonne, elle est vraiment adorable. Après, le seul truc qui est dommage, c'est que elle a un espèce d'outil, c'est qu'elle prend les fringues et elle les met en visuel pour montrer genre à quel point les outfits vont bien ensemble. Et en fait, elle, ça l'aide aussi pour montrer à ses clients, par exemple, regardez quel genre de style vous pouvez vous faire, etc. Et en fait, juste les fringues qu'elle met, elles sont magnifiques et tout, mais genre, moi, jamais je porte ça. Donc, c'est un peu, j'ai du mal à m'identifier en tant que personne de ce que je pourrais acheter dans les trucs. Mais après, elle fait plein de listes de marques éthiques, écolo, etc., pour t'inciter à acheter de meilleure qualité et pas dans les grandes marques de
c'est trop cool.
Fast fashion.
Et je trouve qu'en plus, ça dit un truc, enfin, le fait qu'elle encourage à s'amuser et le rapport au style, c'est hyper important. Oui. Parce que, par exemple, moi, je sais que les potes de mon mec, qui sont donc marseillais, n'arrêtent pas de dire que je m'habille. Ils n'arrêtent pas de dire que je m'habille n'importe comment. Oh. Ce qui me fait beaucoup rire, parce que c'est eux, selon moi, qui s'habillent n'importe comment, mais bon, peu importe. Et chacun son style. Et en fait, je leur dis, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, je m'éclate avec les fringues. Mes fringues, c'est un énorme moyen d'expression. Et putain, qu'est-ce que je kiffe me lever le matin en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Et parfois, c'est raté, tu vois. Mais même quand c'est raté, je me dis, c'est vraiment raté, c'est ridicule. Je suis contente, tu vois. Je suis contente parce que je me suis créée à moi toute seule une émotion.
T'as
et
bien
c'est
raison.
Vachement bien.
Ouais, c'est trop
donc
bien.
J'ai trop hâte de découvrir
mais
ça.
Mais tu vois, tu dis que il y a des trucs que t'aimerais pas porter. Enfin, en tout cas, que tu te verrais pas comme ça, mais peut-être est-ce que tu les essaierais, par exemple, dans une boutique?
Mais je pourrais les essayer, mais en fait, j'aurais l'impression d'être déguisée. Vraiment des fringues de working woman un peu fancy, tu vois. Des trucs.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit wardrobe. C'est vraiment des trucs de un peu d'âme pour moi et jamais je porterai ça. À chaque fois les chaussures.
Dis pas jamais, mais.
Non ouais bon bref je porterai pas ça maintenant aujourd'hui. Et tu vois les chaussures c'est jamais des baskets. Enfin c'est jamais très casual. Bref, voilà, tout ça pour dire que je l'aime beaucoup. Et Élise, notre rédac mode de folie, quand j'ai découvert cette chaîne, bien sûr, je lui ai envoyé en lui disant « Regarde ça, c'est trop bien !» Et elle en a fait un article sur Mademoiselle, donc je mettrai le lien de l'article d'Élise qui explique peut-être un peu mieux que moi ce que c'est qu'une capsule wardrobe.
T'as très bien expliqué.
Trop bien.
Ça donne envie.
Trop hâte.
Et elle fait aussi, Daria Andronescu, elle fait 2 séries que je trouve trop cool. Elle a fait une série sur comment sont créés les textiles.
c'est passablement déprimant, on va pas mentir. Cacher, ouais. Mais du coup, elle essaye de donner des alternatives de textiles cool, mais bon, après, ça reste des trucs chers, recyclés, machin, donc je...
Ne portez rien, au pire. C'est-à-dire que c'est vraiment la meilleure façon de rester écolo, d'être nu.
Mais non, mais après, elle donne bien sûr des tips de marques un peu plus abordables en éco-fashion. Je sais pourquoi je parle que anglais. Je suis désolée pour tous les gens qui détestent les anglicismes. Et elle fait une autre série où elle prend un tableau de peintre et avec les couleurs et tout, elle crée une...
Elle fait un outfit en partir de ça.
Même pas un outfit, elle crée une garde-robe.
Oh.
Et donc, et c'est sur... moi je la suis sur Instagram aussi, c'est son nom, Wonder Wardrobe je pense, c'est le nom de son entreprise. Okay. Et elle poste souvent des espèces de planches de style avec plein de looks et les mêmes fringues à chaque fois mais interchangées et tout va trop bien ensemble et c'est formidablement joli à regarder.
Trop cool, j'ai trop hâte de découvrir ça.
Cédric, ça s'appelle comment?
Wonder Wardrobe.
Trop cool.
Voilà,
merci,
j'ai
Loulou.
Trop hâte. Avec plaisir.
Kalindosh.
Ouais, moi j'ai un très gros coup de cœur pour ce gros kiff. Ça date de samedi, donc j'étais malade comme un yinche la semaine dernière. Et samedi matin, j'ai enfin pu mettre le nez dehors, en dehors de chez moi. Je suis donc allée me faire un hammam avec une de mes amies. Et en sortant, nous sommes allés à la Villette. La Villette, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est un endroit dans Paris où il y a plein de choses à faire. Il y a la Cité des Sciences, qui est super cool pour les ados, comme pour les enfants, comme pour les adultes. On peut toucher à plein de trucs, il y a plein d'expériences sensitives, sensorielles, je sais pas comment on dit, mais c'est très cool.
Tu peux dire les deux.
Et il y a aussi la Géode. Et la Géode, c'est quoi? C'est une espèce d'énorme
boule.
Une
énorme couille.
C'est ça, c'est comme une grosse couille. Sauf qu'en fait, cette couille, c'est un cinéma à l'intérieur. Donc en fait...
J'aurais dit une boule de pétanque, mais vous faites ce que vous voulez.
C'est pas faux. On dirait plus une boule de pétanque, d'ailleurs, c'est tout à fait vrai. Ou une boule de cristal, je sais pas.
D'argent.
Et les couilles du surfeur d'argent, oui.
Mais niquez-vous, putain, moi je vous laisse pas être vos kiffs, bordel.
Bref, comics, yeah.
Déteste le surfeur d'argent, c'est la pire personne. Et donc en fait, on rentre dans la Géode par le dessous. Et donc c'est un cinéma. Et donc t'as les écrans qui sont tout autour de toi. C'est complètement ouf parce que t'as vraiment l'impression d'être en immersion au cœur du film. Et j'ai fait découvrir ça à une pote, donc ça a encore exacerbé mon kiff parce qu'elle avait jamais été. Pourtant elle est parisienne, elle s'appelle Florence. Florence Chartier, on l'adore.
On l'adore également. Florence.
Et donc Florence Chartier est venue avec moi pour la première fois. Elle m'a dit mais c'est génial, c'est du génie. Putain mais c'est génial, c'est génial. Et j'ai décidé de lui faire plaisir et de l'emmener voir un truc qu'elle adore, c'est-à-dire un documentaire sur les pandas. Et le documentaire s'appelle Panda. Il est
énorme.
En toute originalité.
Énorme créativité.
Le documentaire s'appelle Giraffe.
Je propose qu'on appelle ce podcast Podcast.
Grave. Mais avec un cul. Et donc en fait, on est arrivé un peu en avance. On a fait une expérience de réalité augmentée juste avant. On volait à dos d'aigle et tout. C'était hyper stylé.
Oh là là.
C'est pas ça mon gros kiff. Mon gros kiff, c'est le contenu de ce documentaire qui m'a transporté en Chine et qui a brisé mon cœur en même temps qu'il l'a gonflé d'amour. Parce que, alors l'histoire de Panda, ça se passe dans un centre qui recueille des pandas, hein, en toute surprise, en Chine. Et donc, il faut savoir que les pandas sont une espèce en voie de disparition. Oui. Et en fait, pour que l'espèce continue d'exister dans le temps, ils font se reproduire des pandas. Ah, oui. Déjà, c'est très compliqué parce que, alors vraiment, ils sont flemmards comme pas possible.
Ils ont libido proche de zéro.
Et donc là, c'est l'histoire de 4 bébés pandas qui naissent. Et en fait, il y en a un qui va être choisi, le plus intelligent. Et c'est vraiment dur à trouver parce que vraiment, ils sont teubés,
tous...
sa mère. Ils sont vraiment teubés. Et c'est ça qui est drôle. Et genre, c'est plein de plans d'eux. Ils sont là, ils arrivent même pas à boire leur biberon, ils se cassent la gueule. Ils font du toboggan, ils se défoncent, ils n'arrivent pas à monter aux arbres, ils sont des Billy Queen, ils font... C'est la meilleure chose. Et donc, il y a un de ces bébés pandas qui va être sélectionné pour être relâché dans la nature. Et là commence une épopée incroyable qui est que il y a un type, un Américain, beau gosse, sportif, la quarantaine, on l'adore. Il arrive, il prend le bébé panda et pendant 2 putains d'années, il va apprendre au bébé panda à se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'il va l'accompagner. D'abord, il va dans la forêt, après il va dans une plus grande forêt, après dans un parc national, après dans la nature, sans le parc, là où les pandas vivent, dans la montagne. Et en fait, pendant 2 ans, il va accompagner ce bébé panda jusqu'à l'indépendance, jusqu'au jour où il doit lâcher le bébé panda.
Oh là là, ils sont séparés donc.
Oui,
je suis en train de pleurer.
pleurer toutes mes larmes encore.
Et en fait, à un moment donné, je vous spoil pas, c'est pas vous spoiler, c'est même dans le synopsis. À un moment donné, donc Chen Chen est dans la forêt en train de faire sa life et l'Américain rentre aux États-Unis et là il reçoit un coup de fil. Il va jamais aux États-Unis, il y rentre jamais. C'est la première fois qu'il est rentré en 2 ans. Et on l'appelle, on lui dit écoute, voilà, on a une mauvaise nouvelle. Ça fait 24 heures que Chen Chen n'a pas bougé. On sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc le type prend immédiatement l'avion. Et il arrive dans la forêt, il marche pendant 48 heures pour réussir à trouver Chen Chen. Et en fait, Chen Chen, elle est coincée en haut d'un arbre et elle a été blessée. Et elle a tellement effrayé qu'elle n'arrive pas à descendre de son arbre. Et elle voit son soigneur. Et enfin, elle arrive à retrouver confiance et à redescendre. Et là, elle le prend, ils se prennent dans les bras.
Oh my God!
Je pleure peut-être.
Il le ramène au centre. Non mais je te dis, j'ai pleuré pendant 45 minutes de film.
Louise est en train de pleurer.
Et il le ramène au centre et
générique, ça va.
Non, mais arrête, moi aussi je suis en train de pleurer du coup. Et donc il le ramène au centre et t'as Chen Chen et l'Américain qui recommencent à vivre leur idylle comme si rien ne s'était passé. Et sauf qu'il faut bien sûr aller la réintégrer dans la nature parce qu'il faut atteindre l'objectif. Et il la réaccompagne. Et en fait, non seulement le documentaire est bouleversant et plein d'espoir pour ce qui est de la repopulation des montagnes en Chine. Et surtout, ce qui, moi, m'a bouleversée, c'est la dévotion de cet homme et des soigneurs pour des animaux. Moi, les animaux, c'est une de mes passions. Et vraiment, de voir autant de dévotion dans les yeux d'un homme pour un animal, ça m'a bouleversée. On est ressorti avec Florence Chartier, on pleurait et tout, ça nous a bouleversés. Et on s'est dit qu'on allait peut-être démissionner pour faire ça de nos vies. Et...
Avec des honey badgers.
Avec des honey badgers.
Putain, les honey badgers, vraiment les pires trucs.
C'est
moins sympa les honey badgers que les pandas.
C'est clair. Mais
l'animal que tu détestes le plus.
C'est l'animal que je hais. Et en fait, voilà, je voulais aussi en profiter pour dire, vu qu'on est pas une radio, mais un podcast, s'il y a des gens qui m'écoutent, que c'est votre métier à vous de faire en sorte que la nature se porte mieux et qu'on puisse réintégrer des espèces et les faire évoluer et les faire continuer d'exister. C'est le plus beau métier du monde. Bravo. C'est le métier que j'aurais rêvé faire dans ma vie et c'est peut-être quelque chose que je finirais par faire. Voilà, j'ai essayé un peu en Afrique du Sud et ça a été le plus beau voyage de ma vie. J'en parlerai bientôt dans un sister mais ça a transcendé ma vie, ça l'a changé.
Vraiment,
et peut-être que c'est quelque chose que je ferais dans ma vie.
Ça m'attriste de l'avoir l'impression de t'enfermer là dans ce bureau à écrire sur des revues
pas
cinéma.
Du tout, parce que pour l'instant c'est ma passion. J'ai plusieurs passions dans la vie, heureusement, et je pense que quand j'en aurai fini avec ma vie citadine et que quoi qu'il arrive, je sais que ma vie elle sera plus tard dans des espaces plus verts avec des bêtes, quoi, c'est sûr et certain. Je le sais depuis que je suis petite.
On va trouver ton Chen Chen.
Si t'es la meilleure meuf.
Va trouver ton Chen Chen.
Loulou, elle pleure.
Ah, Loulou.
Oh, mon chaton. Tu penses à Chen Chen.
Chen Chen et Brian.
Est-ce que c'est pas un peu une allégorie de la vie, finalement, ce film?
Bah oui, c'est clairement l'histoire de la vie, s'attacher aux gens et puis les laisser partir et puis continuer ta route sans eux, bien sûr.
Voilà. Ouais. C'est un peu ce qui va se passer, tu vois. Avec...
Mais entre nous. Allez, le podcast du kiff et de la bonne humeur.
entre toi et moi, le jour où il faudra que tu partes, tu vois, faire grandir les pandas.
Et est-ce qu'il est encore... On peut encore le regarder à la Jade?
Ah oui,
ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Okay. En général, les films à la Jade, ils restent longtemps. Voilà, donc allez-y, il y a plusieurs séances par jour. Et vraiment, n'hésitez pas. Il y a aussi un truc sur les fonds marins qui est passionnant. Voilà, moi j'adore les documentaires sur la nature.
J'avais vu un docu sur la Lune, de ouf aussi, vraiment. Qui
sur l'espace, c'est impressionnant dans la Géode.
3 quarts d'heure sur la Lune à la Géode. Ouais. Vraiment, c'est zinzin des choses que tu connais pas sur la Lune, comment elle s'est formée et tout, c'est ouf.
Bah écoutez,
merci,
n'hésitez
Kalindi,
pas à aller à la Géode, mais je vous en prie.
C'était trop
pour ce
beau.
Gros kiff.
Ce beau moment d'émotion.
Ouais. Cédric, qu'est-ce que tu nous racontes, toi?
Moi j'ai un livre sur le racisme.
C'est la meilleure personne.
Toujours, les thématiques sympas. Donc non, c'est un livre qui s'appelle Chien blanc qui m'a été conseillé par ma sœur Mani. Et en fait, donc ce livre est un livre de Romain Garré qui est, je pense, mon auteur français préféré, qui est sans doute dans le top 3 de mes auteurs préférés tout court, parce que Romain Garré est complètement brillant, très drôle. Et donc en fait, l'histoire de Chien blanc. C'est donc Romain Gary a été diplomate pendant de très très longues années. Il a donc bossé sur de moultes zones à travers le monde, des plus ou moins compliquées et plus ou moins socialement chaudes. Et donc il termine un petit peu sa retraite et il écrit des livres, et il coule des jours paisibles à Los Angeles, accompagné
de
sa femme Jean Seberg, donc actrice suédoise, voilà, qui était une star hollywoodienne à l'époque.
Putain, je savais pas.
Et donc en fait Romain Gary et Jean Seberg sont fans d'animaux, donc en fait il a des perruches, il a des chats siamois, il a un énorme boa qu'il a donné à un ranch qui s'occupe d'animaux à côté, parce que tu peux pas garder un boa chez toi. Et il a un chien qui s'appelle Sandy. Et un jour, Sandy revient avec un ami, un berger allemand grisonnant, un peu vieux, mais qui a l'air vraiment très sympathique. Et Sandy l'aime beaucoup. Et donc Gary dit, ok, je vais te garder un peu, viens là. Il l'appelle Batka, qui veut dire gros pépère en russe, parce que Romain Gary est donc russe d'origine. Ils ont grandi, c'était des juifs russes, grandis à Paris. Il a une histoire assez extraordinaire qu'il raconte.
J'en profite pour faire une petite aparté et parler de La Promesse de l'Aube, en effet, avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet, dans laquelle on découvre toute la jeunesse de Romain Gary, voilà, et les pays qu'il a fait quand il était soldat.
Bah pour le coup, vraiment, La Promesse de l'Aube, en plus, je pense que c'est un de mes livres préférés de toute la vie. C'est
autobiographique.
C'est passionnant, quoi. Et donc, Chien Blanc, en fait, est aussi un livre autobiographique, parce qu'il a vraiment récupéré ce chien, donc ce gentil Batka, donc qui est une créature tout à fait adorable. Donc, les amis de Romain Gary et de Jean Seberg passent à la maison. Et donc, en fait, que se passe-t-il quelques jours après, quand le monsieur qui va nettoyer la piscine de Romain Gary arrive? Chien Blanc, le gentil Batka, il devient tout fou et il essaye de lui sauter à la gorge et de le défoncer, parce que le monsieur qui nettoie la piscine est noir.
Non.
What?
Et donc la même mésaventure arrive donc plusieurs fois. À chaque fois qu'un noir passe devant les yeux de Batka, il devient fou, il s'enrage et il essaye de se jeter sur eux pour leur faire beaucoup de mal.
C'est un chien élevé à buter des... C'est ça.
Et donc exactement, le nom Chien Blanc vient d'un dressage américain de l'époque. Donc là on est dans les années 60, fin 60. Et donc c'est des white dogs, c'est des chiens qui sont souvent d'ailleurs à l'époque dressés par la police pour en fait pas juste renifler ou trouver des suspects, mais vraiment pour contrôler et défoncer
les niaqués, quoi.
Voilà, défoncer les noirs qui passent par là. Donc c'est souvent des chiens du sud des États-Unis qui étaient donc vendus très cher comme chiens de garde à Los Angeles et dans les villes huppées de ce pays fantastique dans les années 60.
Putain, et donc du coup, pas du tout.
Et donc en fait voilà, il apprend que Batka est donc un chien de shérif.
À tête de Louise.
Et en fait, donc il se dit, Gary, il se dit, c'est pas possible. Batka a donc 7 ans à peu près, donc il est déjà un peu vieux. Il se dit, c'est pas possible.
C'est pas vieux pour un chien,
je veux le faire
ans.
Changer.
Oui,
pour un gros chien dressé. Oui, pour le faire changer, tu veux dire, oui.
Non, mais pour un chien de race, c'est 10 ans de vie.
Ouais.
Ah, ok.
Et donc du coup, il va dans le ranch où il a posé son boa constrictor pour confier Batka au boss de ce ranch et lui dire, voilà, mon chien, clairement, il est problématique et il attaque...
Ça, c'est problématique, c'est sûr.
Oui. est-ce qu'on peut le faire changer? Le mec du ranch lui dit, non, mais il est vraiment vieux, c'est pas possible. Et Gary insiste et il arrête pas de lui casser les couilles jusqu'à ce que l'autre dise ok. Et donc, c'est un vieux dresseur noir qui s'appelle Keys, les clés.
Wardrobe. Keys.
Qui donc décide de s'occuper du chien. Et donc, évidemment, Batka, il essaye à chaque fois de défoncer Keys. Et Keys déploie des trésors d'ingéniosité plus ou moins... c'est là que c'est intéressant et que l'ambivalence aussi de ce livre est intéressante. C'est que Keys, il a clairement une histoire personnelle compliquée dans les États-Unis des années 50 et 60. Donc, dans ce chien blanc, il voit aussi une forme de... Tu vois, il voit tous les mecs blancs qui l'ont maltraité, lui. Donc, en fait, il passe aussi... Il a des méthodes de dressage un peu vénère, tu vois, pour le bon vieux Batka. Donc, ça, c'est un petit peu le début du livre. Et que se passe-t-il? Donc en 68 aux États-Unis, Martin Luther King est assassiné. Nombre et beaucoup d'émeutes raciales explosent un peu partout aux États-Unis et particulièrement à Los Angeles, ville qui est particulièrement ghettoisée. Et c'est là que arrive aussi cette partie qui est très 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 intéressante et super passionnante du bouquin, différentes luttes et des différents militantismes en fait qui vont se mettre en place et se créer à Los Angeles. Et donc c'est très intéressant puisque ça suit vraiment la formation donc des émeutes raciales, des luttes, des clans en fait de noirs pauvres qui commencent à casser des boutiques et tout ça. Mmh. Et en fait, il y a plein de ces clans qui étaient donc aussi infiltrés par le FBI, parce que comment mieux détruire un mouvement que de le contrôler soi-même pour l'amener à la destruction ? Et donc, où ils poussent justement ces clans à s'assassiner entre eux, à défoncer des leaders et machin, et puis après, ils arrêtent les personnes un peu stratégiques et tout. Et donc, à côté de ça, t'as aussi tout ce qui se passe dans la maison de Romain Gary et de Gene Seberg. Gene Seberg étant très impliqué dans les mouvements... dans les mouvements d'aide en fait justement à l'égalité et à la libération à l'égalité des droits, et donc en fait passe par chez elle tous les acteurs blancs et les Marlon Brando et tous les acteurs de l'époque qui donnent beaucoup d'argent à ces luttes là mais en donnant un peu de l'argent pour tout et n'importe quoi, et donc il y a évidemment des énormes associations frauduleuses qui viennent leur taper du pognon, eux-mêmes ils se légitiment un petit peu dans leur lutte en donnant du pognon et en essayant d'être genre ceux qui vont dénoncer encore plus fort, et ce qui est d'autant plus ridicule que c'est des vedettes d'Hollywood, tu vois. Donc il y a un côté qui est assez intéressant sur l'hypocrisie de ce petit milieu en fait qui s'achète une conscience de façon très très publique la plus publique possible. Et donc au milieu de tout ça, t'as Gary qui est immigré de multiples générations et tout ça, et qui a une vision en fait, qui reste un mec qui est assez profondément humaniste, mais qui est très blasé. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, il est déjà assez vieux. C'est 12 ans avant qu'il se suicide. Et donc, sa carrière est derrière lui, de diplomate, de mec qui fait la guerre en avion et tout ça. Et donc, du coup, voilà, il a cette espèce de hauteur sur le sujet et de blasé. Et en même temps, il est très, très, très déçu de tout ça. Donc, il est très drôle, en fait. C'est à chaque fois très précis, percutant.
Ouais, moi, c'est ça que j'aime chez Gary. Il est hyper ambivalent. Il arrive à faire se mêler plein d'émotions tout. Et c'est un mec hyper complexe. Moi, je l'adore. Je voulais juste rajouter un truc. J'en profite pour glisser un petit conseil culturel en plus sur les populations ghettoisées à Los Angeles il y a quelques décennies maintenant. Il y a un très 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 bon film qui est sorti il y a quelques mois qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'il méritait, qui s'appelle King, qui est le nouveau film d'une réalisatrice, et c'est la réalisatrice qui avait livré Mustang, cet excellent film sur les jeunes femmes turques qui se faisaient enfermer par leurs parents. Et qui elle revient avec King, qui est porté par Daniel Craig et par Halle Berry, et c'est sur la naissance
des émeutes,
mais oui. C'est passionnant, n'hésitez pas à le voir pour compléter tout ça, c'est vraiment très bien et ça mérite d'être vu.
Et sur Romain Gary, personnellement, moi j'ai lu que La vie devant soi.
Mmh. Et oui,
il a écrit sous pseudo et j'ai trouvé ça fantastique. C'est vraiment je crois que j'avais commencé à le lire quand j'étais ado, et comme tous les livres que j'ai commencé à lire ado qui sont un peu des classiques et tout, j'étais là, je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument que je lise ça, et je l'ai lu 8 ans plus tard, et là j'ai fait ah ok, c'est taré.
Ah ouais, c'est balèze,
trop
vraiment
intéressant. Et ouais, le petit Momo, il est trop cool. Et il est si drôle et si touchant. Et sa vie est si étrange.
Parce que voilà, ouais, La vie devant soi, c'est l'histoire donc, du petit Momo qui est accueilli, adopté par une vieille prostituée de... Je crois que c'est... Je sais plus, la rue de Saint-Denis, un truc comme ça. Et donc, t'as cette espèce de plongée entre les petits immigrés deuxième génération, je crois. Plus ou moins abandonnés dans la ville. Et ces vieilles matrones... Qui ont arrêté le métier il y a bien longtemps, mais qui ont encore la broie.
Comme toujours chez Gary, en fait, il y a ce truc, cette confrontation toujours des jeunes avec les vieux, des classes sociales, des populations, c'est cool.
Ouais, c'est clair. Mais c'est, sur La vie devant soi, t'as une espèce d'amour qui transpire, que tu vas pas retrouver dans Chien Blanc. Chien Blanc, t'as vraiment un truc genre de...
Mais tu le retrouves dans la Promesse de l'Aube, et moi, c'est ce que j'aime dans La Promesse de l'Aube plus que tout. C'est la déclaration d'amour qu'il fait à sa mère, en fait. Mais moi, c'est ça qui m'a touchée, c'est comment c'est sa mère qui a déterminé l'intégralité de sa vie, quoi.
Mais c'est La Promesse de l'Aube est ouf, mais du début à la fin, ce bouquin est incroyable.
Et moi, je pense que profondément, son malheur, de tout ce que j'ai lu sur lui et tous les films que j'ai vus sur lui, que le malheur qu'il a pas forcément poussé au terrible acte qu'il a commis, mais la dépression dans laquelle il a été plongé pendant toutes ces années, c'est parce qu'en partie, il a jamais géré le décès de sa maman, quoi. Ouais. Et voilà.
Le podcast du kiff.
Le podcast du kiff dans la digression.
Feel good.
Donc, bah, en tout cas, voilà, chien blanc. Donc là, en fait, je vous ai raconté, je pense, les 50-60 premières pages du livre. Derrière, il se passe plein de choses. Et puis après, on suit Gary qui, de temps en temps, en fait, on a marre des États-Unis et de ce qui se passe. Et donc, il revient à Paris. Donc, on est en plein mai 68. Donc là, ouais. En plus, t'as encore une deuxième... parce que du coup, voilà, t'arrives sur mai 68 où c'est une lutte un peu plus de classe sociale ou voire même de classe d'âge et plus du tout une lutte de ségrégation comme c'est le cas là-bas. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir les différences entre ces luttes-là et tout ça, la façon dont lui-même, il les perçoit. Et je trouve qu'en fait, il est assez bienveillant, mine de rien, Gary, sur pas mal de ces personnages un peu pauvres qui essaient de se bagarrer là-dedans. Il est assez bienveillant avec les gens plutôt cool. Et non, c'est vraiment très, très, très bien.
Trop
voilà.
Cool.
Et ça fait 240 pages, donc ça se lit vraiment assez rapidement en plus.
Bah, ça donne envie. J'ai envie de rajouter plein de trucs à ma liste de choses à voir et à lire.
Pareil.
C'était très culturel aujourd'hui.
Ouais, ouais, mais c'est donc cool aussi, ça fait du bien.
Très bien, on arrive donc à la fin de ce podcast. C'était très chouette, j'espère que ça vous a plu à vous qui nous écoutez. Avant de finir, quelques recommandations. Comme toujours, abonnez-vous au podcast de Mademoiselle car ils sont très bien, ils sont formidables et que bientôt il y en a des nouveaux qui arrivent.
Abonne-toi. Oh my god. Oh my god.
Je ne dirai pas avec qui ni sur quoi car j'ai décidé de vous laisser dans l'ombre et dans le... je ne sais pas, je ne terminerai pas cette phrase.
C'est avec Queen Camille.
Voilà, ensuite vous mettez une note au podcast sur iTunes ainsi que...
une note maximale.
Oui, une note maximale, 5 étoiles, un petit commentaire, on kiffe. Et parlez de Laisse-moi kiffer à vos potes si vous avez kiffé, que vous avez ri, que voilà. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la meuf qui a fait une chaîne YouTube. Le premier truc que j'ai fait après avoir bingé 10 vidéos, c'est de lui envoyer un message sur Instagram. Bouillard. Pour lui dire « Meuf, c'est trop bien ce que tu fais ».
Bien vu,
oui.
Donc n'hésitez pas à faire pareil avec nous car on aime vos messages.
Et oui.
Et
envoyez-en à Cédric qui en a reçu qu'un. Allez-y.
Mad Fifi _, c'est ça?
Oui.
Oui.
Et surtout, touchez-vous bien le kiff.
Touchez-vous bien le kiff.
Wardrobe.
Wardrobe.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.